Slate Podcast.
Bonjour, ce n'est plus Kétéran, mais Axel de l'équipe Audible. Chez Audible, nous avons toujours à cœur de soutenir la créativité des programmes de podcast, comme pour Transfert, qui depuis 3 ans déjà, dévoile une partie de notre intimité. Audible, appli de divertissement audio, vous souhaite une bonne écoute.
Je nous revois dans mon appartement il y a 5 ans. Il y avait Baptiste, Agathe, Sarah Lou, Lola, Caroline. Il y avait des aubergines, des chips et du vin rouge. Je voulais créer Transfert, mais ça ne s'appelait pas encore Transfert. Certains jours, ça s'appelait Épisode, d'autres jours, Fenêtre. Et puis ça s'est appelé Transfert, et il y a eu des histoires d'amour, de voisins, d'amitié et de chats. Il y a eu des voyages, des voix nouvelles et des larmes. Toutes ces histoires, c'était pour écouter les autres, pour comprendre. C'était pour disséquer les secrets de famille, beaucoup, et dénouer les silences. C'était parce qu'on pressentait ce que l'humoriste Anna Gatsby a depuis si bien analysé dans son spectacle Nanette. Elle dit qu'il n'y a pas de meilleure guérison aux souffrances que les histoires. Elle dit « Les histoires sont notre remède ». C'est la dernière fois que je vous parle ici d'histoire et vous dis de plier vos chaussettes. C'est le dernier épisode de Transfert que j'ai le plaisir de vous présenter. Mais ce que j'aime dans les fins, ce sont les commencements qu'elles contiennent. Tout ce qui sera dit ailleurs, d'une autre manière, sous d'autres lumières. Je suis Charlotte Pudlowski et ce dernier épisode produit par Louis Media pour Slate est signé Catherine Lavoie.
Quand j'ai 12 ans, ma mère est à l'école au cégep. Elle fait une technique d'éducation à l'enfance. En plus de travailler, en plus d'avoir moi à la maison. Suite à ça, elle travaille en garderie. C'est une personne très dynamique, une personne très sage, toujours la bonne façon d'aborder les gens avec énormément de force interne. Une des femmes fortes que j'ai connues dans ma vie. Ma mère a toujours prôné d'instaurer la discipline avant l'amour. Je sentais que j'avais énormément de liberté, mais que j'avais beaucoup d'encadrement dans ma liberté. Et puis, quand j'ai annoncé à ma mère, elle qui m'avait toujours dit « Dans la vie, c'est bon d'être autonome », puis c'est avec un diplôme que tu vas pouvoir atteindre cet objectif-là, être bien, pouvoir faire ce que tu aimes dans la vie, pas être serré tout le temps, puis dépendre de quelqu'un. Quand j'ai décidé de lui annoncer que je quittais l'université, elle m'a répondu, en fait, je quittais l'université pour travailler dans le monde des chevaux, un monde qui est pas très, c'est comme un monde d'artiste, là. C'est pas très payant, puis c'est pas tout le monde qui perce, puis c'est difficile de faire sa voix, là. Et puis la seule chose qu'elle m'a répondu, c'est « Catherine, l'important dans la vie, c'est faire ce qu'on aime ». Février 2011, mon nouvel emploi, la puce de course. De 4h15 le matin jusqu'à midi, on travaille. Et puis, il y a 1600 chevaux qui s'entraînent entre 6h le matin et 10h le matin sur la piste de course. Puis, dans l'après-midi, c'est les courses. Ce temps-là de ma vie a été le meilleur. Cette année-là que j'ai passée en Pennsylvanie, à Philadelphie, c'est le moment le plus trippant de ma vie. Je suis extrêmement stimulée. Je fais, par rapport à ma carrière, la chose la plus difficile, la plus stimulante, la plus enrichissante qui m'est arrivée. Je me fais sortir dans les grands restaurants. Si j'ai une journée de libre par mois, mettons, ou une après-midi de libre, ben, je vais la passer à la plage, Atlantic City, gros soleil. C'était vraiment... Et puis, j'ai une bonne paye. Je vais au gym, entraîneur privé. J'ai une vie au top là, de qu'est-ce que je peux... espérer à ce moment-là dans ma vie. Début janvier 2013, Pennsylvanie, c'est l'hiver, il y a de la neige, il fait froid. Il est 11h15, je suis dans l'écurie, je m'occupe des chevaux, ma journée est presque terminée, les chevaux ils ont terminé de s'entraîner, puis là, je vois quelqu'un s'en venir en cart de golf, un gars de bureau, qui me dit... Viens, on va aller voir le steward. Le steward, c'est le directeur de la place. Donc, je prends la ride de cart de golf et puis on s'en va jusqu'au bureau. Je rentre là, je m'assois devant le steward que je crois pas avoir déjà rencontré. Je l'ai peut-être vu, là, je connais sa figure, mais j'y ai jamais vraiment parlé. Donc, il me dit... en anglais, parce que ça, c'est tout un monde qui est anglophone. Il me dit que la police du Canada est au téléphone pour me parler. Donc là, je prends le téléphone, la personne se présente, un détective ou un policier, je me rappelle plus. Là. Il m'explique que, grosso modo, ma tante a essayé de rejoindre ma mère au téléphone et puis qu'elle ne l'a pas rejoint. Et puis qu'elle a décidé d'appeler la police. À ce moment-là, ma mère reste dans le Vieux-Québec, dans un appartement qu'elle a acheté dans une église qui a été rénovée. Elle adore son travail, elle adore la ville aussi. Ça fait quelques années qu'elle est séparée de son conjoint qu'elle a eu pendant presque 20 ans, que je considère comme mon père. Ils sont restés en très bons termes, mais elle vit seule. Donc, jusque-là, je me dis, tout se peut. Et puis, là, il commence à m'expliquer que, en fait, il me dit, votre mère ne s'est pas présentée à son travail. Pensez-vous que votre mère serait partie en voyage en laissant tout là, son emploi, ses papiers? Et puis là, je comprends que tout est possible, mais c'est vraiment pas dans la nature de ma mère que de laisser son emploi, puis de pas dire à personne, puis de partir sur un fly avec un homme qu'elle a rencontré. C'est pas du tout dans sa nature. Fait que là, je comprends que ça commence à être sérieux. Et puis là, il me dit, on a retrouvé son auto abandonnée sur une rue. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai compris que c'était grave. Il finit par me dire, « Madame, la police fait tout ce qu'il faut pour retrouver votre mère. Vous n'avez pas besoin d'être au pays pour ça. Si on a des détails, on vous contacte. Même chose, si vous pensez vous rappeler des trucs ou des choses, vous me contactez. » Quand je suis sortie du bureau puis que j'ai compris que c'était grave, ça a fait une faille à l'intérieur de mon corps tellement profond. C'était vraiment comme un territoire qui se fend. Mais dans mon corps, ça faisait ça. Puis ça restait là. C'était pas comme l'histoire d'un flash, là. C'est venu physiquement faire une blessure vraiment profondément. Je m'en vais dans la chambre de mon ami qui restait sur le dortoir aussi. On s'en va sur le web. Puis là, je fais des recherches par rapport à ma mère. Puis là, je tombe sur un document avec sa photo. Et puis, c'est marqué qu'elle est portée disparue depuis le 4 janvier 2013, que c'est une femme, 58 ans. Il donne ses mensurations, c'est son aspect physique. Il informe sur la feuille que si on a des renseignements, de téléphoner au numéro. Et puis, c'est inscrit dans la dernière ligne que c'est la 22e personne disparue au Québec en ce moment. C'est là que je comprends que j'ai pas d'affaires aux États-Unis, en Pennsylvanie, là. Je ne peux pas rien faire, continuer ma vie pendant que ma mère est la 22e personne disparue. Pour moi, ça fait pas de sens. La seule chose que je me dis, c'est je vais mettre des pancartes partout, je vais tout faire pour la retrouver. Je sais que la chose que j'ai à faire, c'est m'en aller. Je pars le lendemain. Je mets toutes les choses dans mon auto. J'ai 8 heures de route à faire. J'ai en boucle des choses que je me crée dans ma tête, de ma mère qui est en petits morceaux, de ma mère qui est morte, des visions d'horreur en boucle. Jamais le suicide m'a traversé l'esprit. C'est trop à l'opposé de la nature intrinsèque de ma mère. La seconde que je franchis la frontière, j'ai comme un sentiment que je suis chez moi. Physiquement, je le sens que je me rapproche de mon chez-moi. J'arrive dans l'appartement du conjoint que j'ai laissé pour aller travailler là. C'est sa belle-sœur qui m'accueille avec sa cousine. Ils m'ouvrent la porte, ils s'en vont. Pas longtemps après, mes 2 meilleurs amis arrivent avec de la nourriture. Personne ne sait comment réagir parce que il n'y a rien qu'on peut faire de plus. Donc, juste d'être là puis de soutenir moralement. Le lendemain, les enquêteurs disent qu'ils veulent me rencontrer. Donc, je vais les rencontrer chez mon père, mon beau-père. On est à la table de cuisine. Il y a mon père, il y a moi, il y a les 2 enquêteurs habillés propres en civil, là. Ils sont très empathiques, très posés. C'est des professionnels là, qui sont habitués de gérer ce genre de crise-là. Et puis, ils me disent, « Madame, c'est pas le temps de mettre des pancartes partout. » Ils me disent ça comme ça. Dans l'appartement, on a découvert une scène de crime. On ne cherche pas quelqu'un de vivant. Et puis, on a un suspect. Donc, le moins de vagues ça fait, le plus de chances qu'on a d'attraper le suspect en question. Ce qu'ils découvrent dans l'appartement, c'est qu'en pulvérisant le produit qui fait réapparaître du sang nettoyé, c'est que dans le portique de l'appartement, il y a des traces de sang qui démontrent une scène de crime. Dans les jours suivants, les enquêteurs vont rencontrer le voisin de palier immédiat à ma mère. La porte de son appartement est directement en face de celle de l'appartement de ma mère. C'est un de leurs suspects principaux parce que grâce aux caméras de sécurité dans l'entrée, cet individu-là est rentré 2 fois et est sorti 1 fois dans le portique de l'entrée principale. Il voit que la porte arrière de chez ma mère a été ouverte. Il soupçonne d'avoir quitté l'appartement de ma mère avec le corps de ma mère par la porte. Suite à cet entretien-là, la femme de cet homme-là a par elle-même téléphoné aux policiers. Elle leur dit « Depuis que vous êtes passés, mon mari a vraiment changé. » Et puis là, à ce moment-là, les policiers craignent pour la vie de cette dame-là, avec raison. Donc, les policiers décident d'incarcérer le suspect avant qu'il soit accusé. Comme on ne trouve pas le corps de ma mère, on ne peut pas l'accuser de meurtre. Donc, ils peuvent seulement l'accuser d'homicide involontaire. Pour accuser de meurtre, ça prend le cadavre. Ils le mettent en prison en attendant le reste. Tout ce temps-là, les enquêteurs cherchent le cadavre. Dans la ville de Québec, les poubelles sont mises dans un incinérateur. de 80 pieds par je sais pas combien de... C'est immense. Donc, si le corps a été dans un conteneur à déchets, on pourra plus le retrouver. Si le corps a été mis dans la rivière, il est difficile à retrouver. Donc, c'est ça qui a été le bout plus difficile. Tu regardes n'importe quel fossé, rivière, cours d'eau, boisé, poubelle, tu te demandes si ta mère est dedans. Le fait qu'elle soit portée disparue, puis qu'on la trouve pas, c'est que tu es toujours en questionnement. Ton cerveau n'arrête jamais. Tu continues toujours de chercher, inconsciemment. C'est 2 mois et demi plus tard, mois de mars 2013, je reçois un appel de l'enquêteur. Tout ce temps-là, le suspect est accusé d'homicide involontaire, mais il plaide pas coupable à ça. Tout ce temps-là, les policiers espèrent retrouver le corps pour pouvoir l'accuser de meurtre. Et puis, 23 mars 2013, les enquêteurs m'appellent. Ils m'ont dit, il veut plaider coupable. La neige est en train de fondre. Ça veut dire que le corps, on peut le trouver. Eux, ça a fait 1 + 1 dans leur tête. S'il veut plaider coupable pendant que la neige a fond, c'est parce qu'il a peur qu'il retrouve le corps. Et puis, la journée qu'il plaide coupable, il va montrer aux policiers où est-ce qu'il a mis le corps. C'était dans un quartier industriel proche de chez son père à lui, dans un banc de neige. Les policiers et le service de police arrivent avec de la machinerie et viennent déneiger le corps. Tout ça sur vidéo, tout ça aux nouvelles, tout ça dans les journaux. Une fois qu'ils ont eu le corps, ils m'ont demandé de venir l'identifier. J'ai demandé à mon beau-père de m'accompagner, puis j'ai dit « va voir qu'est-ce la photo », parce que c'était sur photo. « Va voir qu'est-ce que ça a de l'air, puis si c'est pas si pire, je vais la regarder. » J'étais très nerveuse. J'arrivais pas à me décider si je voulais la voir ou pas. Mon beau-père, c'est quelqu'un de pas très émotif. À ce moment-là, je me rends pas compte de la pression que j'y mets. Que c'est lui qui a décidé si j'ai à voir ça ou pas. Il vient avec un de ses bons amis. Fait qu'on est les trois là-bas, puis ils me remettent une enveloppe avec les bijoux qu'elle avait sur elle à ce moment-là. Mon père se lève, va dans le bureau. Il revient, puis il sait pas quoi me dire. Parce que c'est une grosse décision un peu. Et puis, j'ai décidé que j'étais pour la regarder. Donc, je rentre dans le bureau, puis il me présente sa photo de sa figure. Et puis, on s'entend que c'est un cadavre que ça fait 2 mois et demi qu'il est à l'extérieur. Fait que je sais comme pas à quoi m'attendre. Quand je l'ai vu, je l'ai tellement trouvé paisible. Ça m'a fait... Puis là, mon cerveau s'est arrêté. J'avais une image de la finalité. Je savais... Pas que je savais qu'est-ce qui s'était passé. Mais maintenant, mon cerveau pouvait s'arrêter à sa photo d'elle décédée. Puis le fait, parce que je m'attendais à voir de la peur dans sa figure ou, tu sais, quelqu'un qui se défend pour sa vie, là, tu sais. Puis c'était tellement paisible, ça m'a fait tellement du bien de voir ça, que ça a vraiment été la bonne décision que de la regarder. Ça a fait toute la différence. Mon cerveau s'est arrêté. Puis quand je dis arrêter, c'est positif, là. Mon cerveau s'est déposé. Ça a arrêté de rouler, de rouler à vive allure, là. J'ai vu cette image-là, puis là, tout s'est calmé. Suite à la découverte du cadavre, puis à l'identification du corps, j'ai eu accès à son appartement. J'arrive là, j'ai la main sur la poignée, j'ai la clé dans la porte, et puis, du coin de l'œil, je peux voir la porte de celui qui a assassiné ma mère. Puis, c'est... Je pense que c'est ça qui me dérange le plus à ce moment-là. J'ai peur de rentrer et j'ai peur de ressentir cette énergie-là de meurtre. Toute cette densité-là, j'ai peur d'ouvrir la porte. Là, j'ouvre la porte, puis je rentre dans l'appartement. Puis là, je vois qu'est-ce qu'elle était en train de faire. Elle était en train de remplir un petit pot de sirop d'érable d'un plus gros pot de sirop d'érable. Puis là, il n'y a rien qui a bougé. Ça fait des semaines. Je voulais rien toucher, je voulais rien bouger, je voulais pas. Je voulais que tout reste intact. C'était ma façon de pas rien changer par rapport à l'existence de ma mère. Si je bougeais des choses, ben ça l'enlevait un petit peu de ma mère qui restait. J'ai tout laissé en place, puis je suis retournée à Montréal. À ce moment-là, pour moi, avec tout ce que j'avais à faire par rapport au bien de ma mère, puis à l'héritage, puis au papier, j'avais pris la décision de ne pas retourner sur la piste de course, de rester au Québec. J'étais la seule héritière. Quand je reçois le certificat de décès, là, je peux commencer à gérer ses comptes en banque par rapport au chèque qui était sans fonds. Donc, je peux appeler les gens qui prenaient leur paiement dans leur compte pour venir les prendre dans les miens. À ce moment-là, je suis au chômage parce que j'ai eu droit au chômage maladie par rapport à pourquoi j'ai quitté mon emploi. J'ai mes trucs à payer et j'ai les trucs de ma mère à payer. J'ai deux autos à payer, deux loyers à payer, deux fois des assurances auto, deux fois des assurances habitation. Et puis, financièrement, c'est pas possible pour moi de faire ça. Je réussis à le faire, je sais pas trop comment, là, en m'endettant sur ma carte de crédit ou peu importe. Je sais que je vais pouvoir vendre l'appartement, mais c'est pas fait, là. Il reste beaucoup de paperasse à faire. Et puis ça a été quelque chose de très difficile aussi. Pour vendre cet appartement-là, par la loi, t'es tenu de dire qu'il y a eu un meurtre à l'intérieur. C'était très difficile, ce bout-là, de parler de meurtre dans un contrat de vente. Pour le vendre, en fait, il ne doit pas y avoir tant que ça d'objets personnels. Donc, je dois commencer à pacter les choses. Ça a été un exercice extrêmement difficile. Puis là, chaque chose te rend mélancolique, te rend triste, te rend sensible. Puis là, tu le prends, tu l'emballes, tu le mets dans une boîte. Mais là, il y en a des choses, là. Chaque vêtement, un coupe-ongles devient comme trop sentimental, là. Plus j'y allais, plus je m'habituais. Plus je retrouvais cette espèce de plénitude que ma mère avait dans son appartement. Plus je pouvais me déposer, plus je trouvais que cet endroit-là était calme, plus je l'appréciais, en fait, parce que je venais goûter à ce que ma mère aimait de cet endroit-là. J'étais obligée de passer au travers de ces objets d'une façon ou d'une autre. J'aurais pas pu laisser ça là, puis pas m'en occuper. Je devais m'en occuper. Dans toute cette période-là, je suis vraiment bien entourée de mes amis, de ma famille. En fait, c'est là que j'ai compris que dans vie, avant le décès de ma mère, dans ma tête, c'était plus simple si je faisais tout toute seule. Puis quand ça s'est arrivé, j'ai compris que dans la vie, tu peux pas faire tout seule, puis que tu as besoin d'aide. Puis maintenant, je vois la vie différemment par rapport à ça. Je suis 100% plus capable de demander de l'aide, de pas juger les gens qui en demandent, puis de pas me sentir coupable d'en demander. C'est surtout ça. De pas me sentir inférieure. Dans les premiers jours, quand je suis revenue au Québec, je pleurais à journée longue. Puis, sincèrement, je pensais pleurer comme ça le restant de mes jours. Puis, il y a quelqu'un qui m'avait dit, ça va te prendre 4 saisons. Un cycle d'une année, tu sais, de tout passer, les fêtes. Parce que là, quelques mois après, j'avais 30 ans. Fait que là, ça me faisait de la peine d'avoir 30 ans puis que ma mère soit pas là. Puis là, le premier Noël. Puis là, la date de son assassinat. Puis là, la date de sa fête. Puis là, tu passes tous les événements d'une année. Puis là, bon, mais c'est la première fois que ma mère n'est pas là pour telle affaire, pour telle affaire. Puis, printemps 2014, j'ai remarqué le vert des feuilles. Puis, je me suis rendu compte que printemps 2013, j'avais pas vu ça. J'avais pas vu le vert. J'avais pas vu la nature revivre. C'est quelque chose que j'avais passé à côté de. Le procès a finalement eu lieu en décembre 2013. Je collabore avec le procureur de la Couronne, très gentil aussi, qui nous explique un peu ça va être quoi. En fait, lui a préparé son plaidoyer pour convaincre le juge, en fait, des méfaits du suspect en question. Au début, il me demande de témoigner, puis je suis réticente à témoigner parce que j'ai pas envie de me mêler à ça. J'ai pas envie d'accorder de l'importance à lui, de dépenser de l'énergie pour lui. Parce que le procès, c'est pour lui, dans le fond. Ce qui me fait changer d'idée, c'est qu'on m'explique que mon témoignage va avoir un impact sur la décision du juge. Fait qu'à ce moment-là, je suis motivée à expliquer ce que j'ai vécu. Parce que ça m'a fait du mal. Là. Toutes les phases de ce qui est arrivé après m'ont blessée d'une façon ou d'une autre. Donc, à ce moment-là, je suis motivée à parler de ce qui m'est arrivé. Le procès était à Québec, à 5 minutes à pied de l'appartement de ma mère. Puis, il y a des caméras de télévision, là. La salle est petite, il y a le juge devant nous. Les chaises sont divisées en 2 sections et puis les gens qui accompagnent la victime doivent s'asseoir du côté de la victime. Puis les gens qui accompagnent l'accusé doivent s'asseoir du côté de l'accusé. Du côté de l'accusé, il y a sa femme et sa fille de 11 ans. De mon côté, il y a mes parents, il y a mes amis, mon beau-père, mon demi-frère. Tout le monde est là. Premièrement, l'accusé n'a pas parlé. C'était que son avocate qui parlait. Puis, on s'était fait dire de pas rouler les yeux au ciel ou de faire des trucs comme ça pendant que son avocate parlait. Et puis, c'est très choquant dans ce moment-là quand tu entends une avocate en train de défendre la personne qui a assassiné ta mère. Essayer d'expliquer au juge qu'il n'a pas fait preuve de violence dans son geste, c'est difficile. Il y a aussi l'enquêteur qui est venu décrire dans les faits ce qui s'était passé. Selon la version du meurtrier, c'est que ma mère l'aurait invité dans son appartement. Moi, c'est le bout que je crois moins, là. Qu'elle l'aurait invité et qu'elle était en sous-vêtements. Ça m'étonnerait qu'elle ait cogné chez elle à moitié chez lui à moitié déshabillée puis qu'elle l'ait invitée. Mais bon, on saura jamais. Il serait rentré dans l'appartement et puis à ce moment-là, il aurait tenté de lui prendre un sein. Et puis ma mère se serait débattue. Elle se serait mise à crier. Et pour l'empêcher de crier, il l'aurait attrapée par la gorge et à ce moment-là, lui a cassé le cou et elle est décédée. En fait, selon l'autopsie aussi, elle a été étranglée, les os de son cou ont cassé. Ce qui me laisse croire que il y a eu de la force qui a été mise au-delà de pour arrêter de crier quelqu'un. Et puis, de toute façon, une fois que tu as tenté un attouchement sexuel, c'est comme un peu de ta faute, là, si l'autre a crié. Mais bon. Ça faisait plusieurs années qu'elle était célibataire et bien. Elle avait eu un homme sur qui elle avait eu un petit coup de cœur. Elle m'en avait parlé. On avait des discussions très ouvertes. Cet homme-là, il n'a jamais été mentionné, jamais. Et puis, c'est pas quelqu'un qui couraille là, ou qui a des relations sexuelles sportives avec les voisins. Là. Pendant tout le procès, en fait, il était sur le banc des accusés. Il était à droite de nous, sur le mur de droite, sur son banc. Il a gardé le silence. Il avait les yeux à terre. Puis j'avais peur de croiser son regard. J'avais peur de croiser son regard, puis encore là, d'être assaillie par la rage, par la haine. J'avais peur de rencontrer le regard d'un meurtrier. C'est à mon tour de témoigner, puis je me lève, puis on me demande de m'approcher. La chaise est quand même assez proche de lui. Je suis comme à une quinzaine de pieds de lui. Il est à ma droite, sur son banc, les yeux à terre. Puis on me demande de m'asseoir ou d'être debout, que j'ai le choix. Je décide de m'asseoir. Puis je commence à jaser, puis je parle pas fort, j'ai la voix qui tremble. Je veux tellement transmettre la douleur que j'ai, puis j'ai l'impression que les mots la transmettent pas tant que ça, tu sais. Puis je dis ce que j'ai à dire, puis quand j'ai terminé mon témoignage, j'ai levé mes yeux vers le meurtrier. J'ai nommé son prénom, puis j'ai dit « Regarde-moi dans les yeux ». Puis là, il a levé ses yeux, puis là, je l'ai regardé droit dans les yeux, puis je lui ai dit « Toute la violence que tu as déployée, ça t'appartient. Je te souhaite juste une chose, c'est de le vivre en pleine conscience. » Puis ça a vraiment fait un silence dans la salle. Il a rebaissé les yeux. Puis j'ai terminé mon témoignage comme ça. Les gens étaient impressionnés. Mes gens. Il était fier de moi. Il trouvait que j'avais eu du courage. Puis ça m'en avait pris. Ça m'en avait pris. Vivre en pleine conscience, pour moi, c'est quelque chose de vraiment très positif. Mais quand t'as assassiné gratuitement quelqu'un, ben ça l'est autrement. Mais rendu là, ça c'était son choix. Donc, de lui souhaiter ça, en le regardant directement dans les yeux, premièrement, j'y souhaitais rien de mal. Ce que j'y souhaitais, c'était pour lui procurer du mal par rapport au choix qu'il avait fait. Fait que je trouvais que c'était comme une situation gagnante pour moi de lui souhaiter ça. Puis aussi, dans mon témoignage, avant de lui adresser la parole, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah, ta mère, c'est comme un ange pour moi », puis tout ça. Puis dans mon témoignage, j'ai mentionné pour tous ceux qui m'ont dit que ma mère avait été un ange pour eux, bien que maintenant, c'était quelque chose qu'elle faisait à temps plein. Puis quand j'allais me rasseoir, ben, j'étais vraiment satisfaite. La partie que je pouvais faire pour faire changer les choses, ben, je l'avais fait comme il faut. Finalement, l'avocate de l'accusé demandait 5 ans de prison. Et puis la couronne demandait 15 ans de prison. Elle a coupé la poire en deux, qu'elle a dit la juge, et elle lui a donné 10 ans de prison. Vu qu'il avait plaidé coupable à son accusation d'homicide involontaire, il n'y avait pas possibilité de l'accuser de meurtre par la suite. Donc, c'est sûr que la sentence était moins grande. Mais j'ai l'impression que ce qui va traîner, c'est à l'intérieur de lui. Qu'il soit d'un côté ou de l'autre des barreaux, pour moi, ça m'importe peu. Parce qu'il y a à vivre avec ce qu'il a fait. Ça a été une étape qui a fait en sorte que je suis sortie de là la tête haute, le cœur en paix. Parce que d'attendre le procès, puis de préparer le témoignage, puis c'est beaucoup de stress. Donc, quand ça s'est passé, et vu que ça s'est bien passé pour moi, quand ça s'est terminé, ça l'a permis de tourner une autre page de tout ce processus-là. Parce qu'il y a plusieurs pages à tourner pour fermer le livre. Donc ça, c'était une autre page qu'on pouvait tourner puis passer à l'autre. L'autre qui était les funérailles. Les funérailles ont finalement eu lieu en juin 2014, le 21, jour de solstice d'été. J'avais le désir de faire plus une fête que quelque chose de triste. Je me suis arrangée pour qu'il y ait de la boisson à volonté, de la nourriture. Mon beau-père m'a fait un registre de toutes les chansons que ma mère préférait. Les gens ont bu, les gens ont mangé. Il y avait des gens qui ne s'étaient pas vus depuis des dizaines d'années. Ça a été un bel événement. Et puis, j'étais très contente à la fin. Donc, j'étais contente d'avoir attendu parce que là, les gens étaient pressés au début pour faire leur deuil, ici et ça. Puis, je m'étais détachée de ces attentes-là de mes proches parce que moi, j'étais pas prête. C'est peut-être égoïste, mais rendu là, c'était ça, c'était de la survie. Puis, j'étais contente de le faire après le procès. Puis, finalement, tout a été parfait. J'avais de la difficulté à prendre la décision d'avoir des enfants alors que j'étais dans le monde des chevaux par rapport aux risques. C'est des gros animaux qui prennent des décisions puis qui vivent des choses, qui sont hypersensibles, qui ont des réactions qui peuvent être dramatiques pour l'humain si on les côtoie au sol ou si on est assis sur leur dos. Et puis, je trouvais ça un peu irresponsable que de mettre au monde des enfants et de me mettre à risque. Donc, je repoussais toujours le moment de fonder une famille parce que j'étais jamais prête à mettre de côté ma passion. Et puis, quand ma mère est décédée, elle était chez elle, elle faisait son lavage. Donc, elle faisait à peu près l'affaire la plus sécuritaire qu'on peut faire dans la vie, puis elle est morte quand même. Et puis, à partir de ça, je me suis dit, on ne sait tellement pas de quelle façon ça va se terminer. Quand même qu'on visualise ou qu'on imagine toutes les possibilités, il y a toujours quelque chose à laquelle tu n'avais pas pensé. Et puis, je me suis dit, ben, tu sais quoi, je vais monter à cheval quand même si j'ai des enfants. Donc, maintenant, j'ai 2 enfants en bas âge et puis je suis encore dans le monde des chevaux au quotidien. C'est certain que ce courage-là, puis le fait d'oser, puis le fait de foncer, d'avoir vécu ce deuil-là m'a amené plus d'aplomb, plus de solidité, plus de courage. puis plus de relativité. Et puis encore aujourd'hui, ça m'arrive de pleurer. Je pense pas qu'on oublie, mais clairement que la douleur est moins intense. Clairement. Et puis, la vie continue. Je pense que de faire un deuil, c'est d'accepter ce qui est arrivé. Peu importe la situation. Je pense qu'une fois qu'on a lâché prise sur ce qui est arrivé, que ce soit dramatique ou non, je pense que de l'accepter, c'est ça qui définit le mieux l'expression « faire son deuil ». Puis moi, je dis depuis ce temps-là, la tristesse est proportionnelle à l'amour qu'il y avait. Donc, c'est juste beau qu'il y ait de la tristesse. Ça prouve qu'il y avait de l'amour. L'amour va toujours rester. S'il y a quelque chose qui me fait pleurer dans la vie, c'est quelqu'un qui me dit hey, « ta mère serait fière de toi ». Ça, c'est quelque chose qui vient toucher une corde vraiment sensible. Je pense que certainement qu'elle serait fière de moi.
Cet épisode de Transfert a été réalisé par Catherine Lavoie. La musique a été composée par David Stank. Il a été mixé par Jean-Baptiste Aubonnet. Il a été produit sous la direction de Maureen Wilson, responsable éditoriale de Louis, qui a permis à toutes ces histoires de voir le jour ces derniers mois. Je suis Charlotte Pudlowski et j'ai créé Transfert pour Slate.fr. Mélissa Bounois a créé la direction musicale et l'équipe de Louis Média assurait la production. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que tous ces épisodes vous ont plu. Longue vie à Transfert. À très vite.